France Inter, le 18-20.
Une semaine en France, mais aussi au-delà. Ce soir, compte tenu de la situation internationale, au lendemain du début de la guerre que la Russie a déclarée à l'Ukraine. Avec nous jusqu'à 19h, Michel Elchaninov, rédacteur en chef de Philosophie Magazine, qui connaît particulièrement bien la Russie et son histoire. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont « Dans la tête de Vladimir Poutine », sorti en 2015. Michel Elchaninov, qui vient de publier également « Lénine a marché sur la Lune » aux éditions Actes Sud. Avec lui, nous allons tenter de comprendre pourquoi le président russe a décidé de lancer l'offensive qui déstabilise l'Europe, mais aussi une partie du monde depuis hier. Quelles en sont les raisons politiques, géopolitiques, mais aussi personnelles? Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menahem et réalisée par Juliette Gou, l'actualité de la semaine, ici en France. Et la chronique « Jeu de pouvoir » de Vincent Martini de l'Hebdo Le 1. Ce soir, les conséquences de la guerre russo-ukrainienne sur la présidentielle, ici en France. Quelles répercussions ce conflit peut-il avoir sur la campagne présidentielle et si oui lesquelles? Ce sera d'ailleurs le thème du téléphone sonne à 19h20. Vous pouvez déjà nous appeler pour en parler au 01 45 24 7000. Le standard attend vos appels d'avance. Merci à nos standardistes, à Magdalena Hervada qui lit vos mails. Merci aussi à Clément Berman, Michel Bézikian et Loïc Frapsos qui sont en régie.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Michel Elchaninov.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous ce soir. Vous êtes professeur de philosophie, écrivain, essayiste, rédacteur en chef à Philosophie Magazine, grand connaisseur de la Russie, où vous avez vécu à plusieurs reprises. Vous venez, je le disais, de publier « Lénine a marché sur la Lune ». On en parlera dans la troisième partie de cette émission. Mais d'abord, puisque vous lui avez consacré un ouvrage intitulé « Dans la tête de Vladimir Poutine » en 2015 et que c'est lui qui fait l'actualité, on va, si vous le voulez bien, commencer par là. Vous allez nous éclairer sur ce président qui vient de déclarer la guerre non seulement à son voisin ukrainien, mais aussi à l'Europe, à l'OTAN et donc à une partie du monde. Michel Elchaninov, que vous inspire l'escalade à laquelle on assiste, vous qui avez tenté de percer les mystères de la personnalité de Vladimir Poutine?
Écoutez, c'est à la fois le scénario, le pire scénario qu'on pouvait imaginer, parce que les spécialistes s'accordaient à ce qu'il y aurait sans doute une attaque de la Russie en Ukraine, mais l'ampleur de cette attaque est vraiment la pire chose qu'on pouvait imaginer, c'est-à-dire qu'on pouvait imaginer qu'il y aurait une incursion, qu'il y aurait juste une attaque dans les régions séparatistes du Donbass, mais là, il y a la volonté de prendre Kiev, de renverser le pouvoir actuel démocratiquement élu. Donc, c'est d'un côté le pire des scénarios, de l'autre, il était malheureusement prévisible, parce que le discours que déploie Vladimir Poutine depuis des années dans ses prises de parole, en fait, a une cohérence énorme. C'est-à-dire quand il dit que, par exemple, l'État ukrainien, d'après lui, n'a pas de légitimité, n'existe pas, il le disait encore en 2016. Quand il dit que l'Occident veut diviser, pousser dans un coin, comme il dit lui-même, la Russie, c'est quelque chose qu'il disait déjà dans les années 2010. Donc, en fait, malheureusement, je dirais, on est en face de quelqu'un qui déploie une vision du monde qui est assez paranoïaque, où tout le monde en veut à la Russie, mais qui a une forme de cohérence, même si elle est totalement close sur le réel, par rapport au réel.
En fait, il est dans sa propre logique, c'est ce que vous nous dites. Alors, peut-être une question aussi sur la façon dont les choses ont commencé, sur cette déclaration de guerre qui nous semble être un acte solitaire, c'est un petit peu posé comme ça. Est-ce que c'est le cas ou pas ?
Dernier, quand Vladimir Poutine a décidé de reconnaître les deux républiques séparatistes du Donbass, il a mis en scène, dans une séquence absolument incroyable qui est passée à la télévision russe, il a mis en scène une forme d'humiliation publique des plus hauts personnages de l'État, de ceux qui composent ce qu'on appelle là-bas le Conseil de sécurité, c'est-à-dire véritablement un organe décisionnel très important. Et en fait, il a fait passer un grand oral à l'ancien président Medvedev, à la chef du Sénat, au chef des renseignements extérieurs, en leur demandant « Alors, est-ce que vous êtes pour la reconnaissance de ces républiques ?» Et parfois, ces interlocuteurs bafouillaient, et Vladimir Poutine, avec une pointe de sadisme, avec beaucoup de volonté de les écraser finalement, leur disait « Alors, quelle était votre réponse ?» Et tous ces hommes d'État importants étaient obligés de répondre « Oui, je suis pour la reconnaissance des républiques. » Ce qui veut dire que Vladimir Poutine a mis en scène un pouvoir solitaire aujourd'hui. Il a mis en scène l'image d'un homme qui domine tout son entourage et donc qui décide seul, effectivement. Et c'est ça qui est un peu effrayant, sans doute, c'est que on est face à quelqu'un dont on connaît mal les intentions, qui est difficile à décrypter et qui aujourd'hui est capable de lancer une guerre de grande envergure.
Voilà, une mise en scène, c'est ce que vous nous dites. Et puis des mots particulièrement choisis, on va en parler, mais on va d'abord se remettre dans l'oreille les déclarations des uns et des autres depuis hier matin, grâce à ce tout sonore que nous a préparé Juliette Gou.
J'ai décidé de lancer une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui ont été soumises à des abus et à un génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans. Et pour ce faire, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine.
J'étais réveillée vers 4h30, ma sœur m'a appelée, elle était restée éveillée je crois, elle m'a annoncé que Poutine vient de commencer une intervention militaire. Quelques minutes après, on a entendu des bruits lourds, c'était 5 ou 6 explosions.
Les temps tragiques de l'histoire reviennent, la guerre est là sur notre sol, et donc si besoin était d'avoir la démonstration que l'Europe n'est pas simplement un marché de consommateurs, l'Europe n'a d'autre choix que de redevenir, peut-être de devenir, oserais-je dire, une puissance.
La guerre est totale. Le président Poutine a choisi la guerre, il a choisi une offensive massive, il a choisi de sortir l'Ukraine de la carte des États. On voit bien d'ailleurs dans cette affaire que l'affaire du Donbass n'était qu'un prétexte. Ce que voulait Poutine, c'est la soumission de l'Ukraine.
Une partie de l'impact le plus puissant de nos sanctions viendra sur le long terme. Nous allons barrer l'accès des Russes aux circuits financiers et aux technologies nécessaires à des secteurs stratégiques de leur économie. Et cela sera un coup majeur aux ambitions stratégiques de Poutine sur le long terme.
Une démocratie en Europe a été attaquée et ça nous paraît important de montrer qu'on n'est pas d'accord avec ça et que c'est pas normal et qu'il faut réagir.
C'est un des grands moments d'agression comme on n'en a pas vu depuis bien longtemps.
Ça fait plaisir que même les Français ils sortent pour soutenir l'Ukraine. Pour moi, c'est le début de la guerre pour tout le monde, en fait. Parce que ce n'est pas la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est la guerre entre Poutine et le monde.
Michel Etchaninov, que dire des termes employés par Vladimir Poutine? On entendait au début de ce tout sonore nazification. Cet après-midi, on sait qu'il a appelé l'armée ukrainienne à renverser le président Zelensky et son entourage, qu'il a qualifié de néo-nazi et de drogué. Pourquoi ces termes-là?
En fait, Vladimir Poutine est assez coutumier d'un langage assez dur, parfois grossier, et il aime utiliser ce langage pour montrer à l'opinion publique mondiale qu'il est pas dans le politiquement correct, qu'il est capable d'appeler les choses par leur nom, comme ils disent. Mais là, il est passé carrément à un langage qui existe depuis très longtemps dans les médias russes, c'est-à-dire que les Russes sont habitués à entendre à la télévision le soir aux informations. Ça fait des années que la télévision russe dit que le gouvernement démocratiquement élu en Ukraine, ce sont des nazis. Mais voilà, aujourd'hui, il y a une forme de violence verbale qui est là pour justifier finalement l'ampleur de cette offensive et la volonté de faire peur, de marquer. Je crois qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine est dans une phase où il veut tétaniser le monde. Il veut faire peur pour jouer son avantage, pour que finalement qu'on ne l'empêche pas de mener à bien sa destruction de l'Ukraine et pour qu'il puisse peut-être aller plus loin, avoir des zones d'influence plus importante. Donc il choisit un langage qui est fait pour choquer, pour faire peur, et puis aussi pour plaire à une partie de son électorat sur le mode je dis ce que je pense.
Mais au-delà de faire peur, quel est son projet à Vladimir Poutine ?
Alors en fait, il a véritablement un projet de domination par la guerre. Moi, vous savez, j'ai étudié ses discours depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2000, et on ne peut pas lui ôter effectivement une forme de cohérence. C'est-à-dire que pour lui, la Russie est un peuple jeune qui dispose d'une sorte de force vitale et qui mérite donc de déployer cette force vitale. Et Vladimir Poutine est persuadé que l'Occident, depuis des siècles, cherche à réduire la force de la Russie, à la diviser. Alors c'est une vision qui est complètement fausse historiquement, c'est-à-dire l'Occident n'a pas toujours voulu réduire la Russie, mais il en est convaincu, il veut surtout en convaincre ses concitoyens, et donc son but c'est de dire on en veut à l'existence même de la Russie, donc je suis obligé d'attaquer. Alors c'est un raisonnement raisonnement évidemment très spécieux, qui est revanchiste, qui est violent et qui passe par la guerre, mais c'est ce discours que Vladimir Poutine essaye de faire passer auprès de son peuple depuis déjà, je dirais, une dizaine d'années.
Vous écrivez dans votre livre que sa manière de penser demeure très soviétique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Ça veut dire que lui, vous savez, il est né juste après la Seconde Guerre mondiale, il a eu passé toute sa jeunesse en Union soviétique, il ne croyait pas du tout au communisme, mais il croyait à la grandeur de l'État soviétique, il croyait aux services secrets, au KGB, il se voyait un peu comme un chevalier blanc, puisque lui-même est entré au KGB, et surtout, quand je dis qu'il pense en soviétique, c'est qu'il a une forme de mépris pour les petits États. Pour lui, une révolution démocratique qui se passe en Géorgie, par exemple, ou en Ukraine, est forcément un coup monté par les services secrets des pays adverses. Et il ne faut traiter qu'avec des grandes puissances et il faut soumettre les petits États. C'est pour ça que l'existence d'une Ukraine libre, indépendante, européenne, de plus en plus européenne, lui était insupportable. Et c'est ça la manière soviétique de traiter les problèmes, c'est de ne raisonner qu'en termes d'empire et d'écrasement des velléités d'autonomie et d'indépendance.
Et des velléités de l'opposition. L'opposition est muselée, les manifestations sont interdites. Il faut du courage pour manifester à Moscou en ce moment, Michel Etchaninov.
Oui, effectivement, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui une bonne partie de la société russe qui est indignée par ce qui se passe. Là, je viens de voir passer sur les réseaux une lettre ouverte d'intellectuels, de cinéastes, de romanciers qui disent « Nous ne voulons pas que nos enfants croient que nous avons soutenu cette agression russe en Ukraine ». Et il y a beaucoup de personnes en Russie, de plus en plus en fait, qui savent qu'ils risquent beaucoup en allant manifester. Ils risquent au moins 15 jours de prison, si ce n'est plus. Mais ils ne peuvent pas supporter le visage qu'a désormais leur pays, qui est non seulement le visage d'un régime autocratique, mais le visage de quelqu'un qui envoie une armée tuer les Ukrainiens, qui sont des personnes effectivement assez proches des Russes et qui ont des liens anciens. Et donc c'est intéressant parce qu'on assiste, on va assister dans les jours qui viennent non seulement à une résistance de la société ukrainienne, mais aussi on va, je pense, avoir des protestations de la part de la société russe. Au fond, le salut dans toute cette atroce histoire, il vient peut-être des sociétés russes et ukrainiennes qui ne veulent pas faire la guerre et qui ne supportent plus la tournure impérialiste, violente que prend cette histoire.
Alors on va peut-être pouvoir écouter justement un reportage, c'est une rediffusion d'un reportage de notre correspondant à Moscou, Sylvain Tronchet, sur une manifestation qui a eu lieu hier soir, place Pushkin, à Moscou. Il en faut du courage pour manifester.
Dans le contexte actuel en Russie, 1 millier de manifestants sur la place Pushkin qui crient non à la guerre, c'est une grosse manifestation. Des dizaines de policiers arrivent, demandent à la foule de se disperser, les arrestations commencent. Polina a 28 ans, elle travaille dans l'événementiel et elle porte un gros sac à dos plein de provisions.
J'ai pris tout ce qu'il faut pour pouvoir supporter la détention. C'est une pratique habituelle pour nous, pour les gens qui partagent les mêmes idées que moi.
En Russie, aujourd'hui, le simple fait de brandir une pancarte dans la rue peut vous rapporter 15 jours de prison. Mais cela n'a pas empêché Alexandre, un juriste de 25 ans, de venir manifester.
C'est très triste de voir une guerre fratricide. Je pense que ce qui se passe est inadmissible. Il n'y a aucune justification au fait d'envahir et de bombarder un État frère.
Nous terminons l'interview, nous nous disons au revoir. 30 secondes plus tard, Alexandre est embarqué sans ménagement par 3 policiers. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Voilà pour cette manifestation à Moscou. Il y a eu des manifestations dans beaucoup de pays, Michel Etchaninov. Ça vous surprend ces réactions ?
Non, parce que je crois qu'effectivement, ce qui se passe aujourd'hui équivaut à un traumatisme pour énormément de Russes qui ne pensaient pas à la guerre possible. Vous savez, quand on voit approcher un danger, malgré les avertissements américains depuis des semaines, on croit rarement au scénario du pire. Et l'ampleur de l'attaque, je crois qu'elle agit comme un traumatisme, mais aussi comme un révélateur. C'est-à-dire qu'il faut faire des choix personnels, et je pense qu'énormément de Russes ne peuvent pas supporter l'idée que leur armée va tuer des innocents et des militaires, mais aussi des civils, de l'autre côté de la frontière, sous des prétextes absolument spécieux, puisque l'Ukraine n'a jamais menacé la Russie d'aucune sorte. Donc je crois qu'il y a une sorte de réveil. C'est finalement le seul espoir que j'ai dans cette cette guerre qui commence, c'est que les sociétés finalement résistent, se réveillent. Vous savez, l'Ukraine et la Russie faisaient partie de l'Union soviétique, et dans l'Union soviétique, il y avait un pouvoir dictatorial et il y avait beaucoup de dissidence. Il y en avait énormément de dissidents en Ukraine, il y en avait aussi beaucoup en Russie, et je crois qu'aujourd'hui, c'est une histoire qui n'est pas oubliée et que beaucoup de citoyens de ces deux pays reprennent finalement le flambeau de cette dissidence dans une forme de nouvelle dissidence où ils vont essayer de combattre pour leurs droits contre les aventures guerrières de M. Poutine.
Avec sans doute des soutiens à l'étranger, on voit qu'il y a des réactions évidemment depuis hier. Il y a eu bien sûr la prise de parole d'Emmanuel Macron hier à la mi-journée, mais pas seulement. Alors nous sommes en période électorale, bien sûr les candidats à la présidentielle ont été amenés à s'exprimer.
Cette attaque doit être l'occasion d'un électrochoc pour l'Europe. Le temps de la naïveté est fini. Désormais, la plus grande lucidité s'impose.
L'attaque russe contre l'Ukraine est insupportable. La Russie de M. Poutine prend l'initiative de provoquer un recul incroyable de l'histoire sur le vieux continent. Dès lors, le risque est immense d'un conflit généralisé.
Nous n'avons hélas rien fait pour éviter cette escalade. Je dis nous, car nous sommes tous responsables. Les Russes, bien sûr. Et ce matin, ils sont les premiers responsables. Mais les Occidentaux aussi, depuis des années, avec l'expansion ininterrompue de l'OTAN à l'Est et la non-application des accords de Minsk.
C'est un régime autoritaire, hein, le régime russe. Historiquement, si vous voulez, par culture, voilà. Donc, nous, c'est vrai qu'on juge avec nos normes, mais ce qu'il a commis là, est une violation manifeste du droit international. Et c'est absolument indéfendable.
Aujourd'hui, la France, elle doit être unie. La France et tous ses responsables politiques doivent être extrêmement clairs vis-à-vis de Poutine et vis-à-vis du régime de Poutine. Et nous devons être unis sur les sanctions très lourdes à mettre sur Poutine et son oligarchie.
Michel Etchaninov, des sanctions, ça lui fait ni chaud ni froid à Vladimir Poutine ou ça lui fait quand même un peu quelque chose?
C'est-à-dire qu'en tout cas, il a choisi de finalement d'assumer ses sanctions. Son pays vit sous régime de sanctions depuis 2014-2015, depuis l'annexion de la Crimée, qui était déjà une violation du droit international. Aujourd'hui, pas mal de candidats semblent se réveiller un peu et trouver qu'il y a une violation du droit international, mais elle existe finalement depuis 8 ans, depuis que la Crimée a été annexée par la Russie. En tout cas, Vladimir Poutine est prêt à ses sanctions. Vous savez, Vladimir Poutine prépare depuis déjà plusieurs années son pays à la guerre. Il y a, à travers les médias que j'écoute beaucoup, les médias russes, hein, les médias d'État, il y a une véritable acculturation des Russes à la guerre. Il y a des immenses églises, des forces armées qui sont construites, il y a une espèce d'exaltation presque mystique de la Seconde Guerre mondiale en Russie, et en fait, il s'agit pour Poutine de préparer finalement la société russe à ce sommet de son histoire moderne actuelle qui serait justement la guerre contre un Occident qui en veut à la Russie. Alors tout ça est de la propagande, mais tout ça est minutieusement organisé depuis des décennies. Et donc Vladimir Poutine a fait son choix. Il préfère que le peuple souffre, puisque c'est le peuple qui va souffrir évidemment, que la Russie se tourne encore plus vers la Chine. Il préfère ça plutôt que d'avoir des relations pacifiées avec l'Occident. Et donc il a choisi finalement la voie de l'idéologie, celle qu'il déploie depuis des années, voire des décennies, l'idéologie où l'Europe est considérée comme décadente et donc faible, et donc qu'il s'agit de combattre et de dominer.
Alors on va laisser un instant l'actualité internationale pour revenir à l'actualité franco-française des derniers jours. Grâce à ce mix qui a été mis en onde par Fred Milano, on commence par une halte à l'Assemblée avec l'adoption d'une des dernières lois du quinquennat.
Joie et émotion aujourd'hui pour le droit des femmes.
Il aura fallu attendre l'avant-dernière séance de la législature pour que l'Assemblée vote l'allongement du délai légal de l'IVG. Un texte d'origine parlementaire en débat depuis près de 2 ans, porté par la députée ex-LREM, Alban Gaillot.
On voit bien que les femmes qui arrivent tardivement dans les parcours d'IVG sont parfois les femmes les plus précaires, les femmes victimes de violences conjugales, les femmes très jeunes aussi.
2 semaines de plus pour permettre à toutes les femmes d'avorter sans aller à l'étranger. La gynécologue Hada Hatem à la tête de la Maison des femmes de Saint-Denis.
Beaucoup de femmes, jeunes et moins jeunes, s'aperçoivent qu'elles sont enceintes à la limite du délai, voire le délai à peine dépassé. Et cette loi va leur permettre d'être accueillies immédiatement et de bénéficier immédiatement d'une IVG.
À propos de délai, celui pour le dépôt des parrainages pour la présidentielle va bientôt expirer. Certains candidats n'ont toujours pas leurs 500 signatures. C'est le cas de Marine Le Pen qui annonce la suspension de sa campagne pour s'en occuper.
Mesdames et messieurs les maires, j'ai besoin de vous. Si vous ne m'aidez pas, des millions d'électeurs seront privés d'élection.
Appel entendu et relayé par le Premier ministre Jean Castex.
Le fait d'accorder son parrainage à un candidat n'est pas automatiquement synonyme de soutien politique. C'est aussi un acte démocratique.
Le parrainage n'est pas un soutien. Sauvons notre démocratie. Parrainez-moi.
Indécent pour Anne Hidalgo.
Zemmour qui tient des propos antidémocratiques, des propos négationnistes, lui donner des parrainages. Mais de qui se moque-t-on ?
Pourquoi ? Ces candidats-là n'ont pas aujourd'hui leur signature.
Yannick Jadot.
Moi, j'ai des élus locaux et on a bossé depuis un moment, donc on a les signatures.
Sinon, cette semaine, des révélations de presse concernant le candidat communiste. D'après Mediapart, il aurait bénéficié d'un emploi fictif d'assistant parlementaire auprès du député Jean-Jacques Candelier. Faux, dit Fabien Roussel.
J'étais un homme de terrain au service de Jean-Jacques Candelier. Les pneus de ma voiture s'en souviennent.
À droite, des irrégularités lors de la primaire LR, si l'on en croit le journal Libération, visant à gonfler le corps électoral. Le journal dit avoir retrouvé la trace d'électeurs fantômes, certains décédés et même un chien sur les fichiers. Valérie Pécresse s'en étrangle.
Cette primaire, elle a été exemplaire. Toutes ces allégations sont là uniquement pour mener une campagne de déstabilisation.
Un drame dans le Cantal où une randonneuse de 25 ans a été tuée lors d'une battue au sanglier. Celle qui a tiré n'a que 17 ans. Le débat sur les dangers de la chasse est relancé.
Une randonnée dans la nature, c'est pour se ressourcer. C'est pas pour trouver la mort au coin sur le sentier, quoi.
Le député Loïc Dombreval.
La France est le seul pays en Europe qui n'a pas de jour sans chasse dans la semaine.
Si on nous supprime le dimanche, c'est sûr qu'on aura du mal à réguler les populations.
Restrictions sanitaires allégées pour la rentrée scolaire des vacances d'hiver. Les parents sont soulagés.
Ah ouais, c'était quand même assez galère. Je remets à l'école, maman, je suis qu'à contact. À l'arrivée, il fallait retourner de nouveau à la pharmacie. Vivement que ça s'arrête, quoi.
Plus de masques à la récré, ça change tout.
Bah, c'était bien parce que on voyait tout le monde sans le masque, on pouvait mieux se parler, on entendait mieux, on pouvait crier, on pouvait jouer à touche-touche, donc c'était bien.
Et encore un grand merci à Fred Milano. Une semaine en France et au-delà avec Michel Elchaninov ce soir, professeur de philosophie, spécialiste de philosophie russe et rédacteur en chef de Philosophie Magazine. À la une du dernier numéro de Philosophie Magazine, celui du mois de mars qui vient tout juste de sortir, Michel Elchaninov. La une, c'est comment la droite s'est emparée des esprits. Vous y signez un article intitulé « Le fond de l'air est bleu ». Est-ce que vous diriez que la droite a gagné la bataille des idées dans notre pays ?
C'est un peu l'hypothèse qu'on fait dans le dernier numéro de Philosophie Magazine et puis sur notre site philomag.com, c'est qu'en fait on a l'impression qu'il y a certaines phrases qui sont devenues pour beaucoup de gens des évidences et qui, disons, dépendent un peu plus de la droite que de la gauche. Je sais pas, les fonctionnaires ne travaillent pas assez, l'intégration républicaine ne fonctionne pas, il n'y a plus que des communautés, on ne peut pas accueillir tous les migrants du monde. Et donc il y a des évidences, ou alors quand on traite les gens de bisounous, en disant que ce sont des qui utilisent le politique pour encore. On a l'impression que la droite a effectivement gagné la bataille des esprits. C'est pour ça que j'ai appelé mon article « Le fond de l'air est bleu ». Dans les années 60-70, on disait que le fond de l'air était rouge. Parce que c'est vrai qu'il y avait une grande vogue de la gauche, du marxisme, et l'atmosphère était à la gauche. Aujourd'hui, l'atmosphère est à la droite. Aujourd'hui, une majorité de jeunes plébiscite l'autorité, par exemple. Et donc, on s'est demandé dans Philosophie Magazine comment ce phénomène est possible, comment ça s'est passé. Et donc, on a mobilisé un grand philosophe italien du début du XXe siècle qui s'appelle Antonio Gramsci, qui a passé plus de 10 ans dans les prisons fascistes au début du XXe siècle, et qui a créé un terme qui est devenu très connu, qui est le terme d'hégémonie culturelle. Il explique qu'en fait, pour gagner, eh bien, avoir une structure sociale, par exemple, qui devrait favoriser plutôt les paysans et les ouvriers, ça ne suffit pas. Il faut aussi séduire. Il faut gagner la bataille des idées. Il faut que des intellectuels, des journalistes, finalement, introduisent des thèmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression, et d'ailleurs les sondages le montrent un petit peu, on a l'impression que le combat, il se joue beaucoup entre le centre-droit d'Emmanuel Macron, et puis deux candidats d'extrême droite, Éric Zemmour et Marine Le Pen, et un candidat de droite traditionnelle. Et on a l'impression que ça se joue comme ça, parce que la bataille culturelle, finalement, a peut-être été gagnée par la droite. Et donc on se pose la question, et moi à la fin de l'article, je me dis, c'est quand même étrange, parce que la France s'est énormément transformée, la France a subi ce que les sociologues Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casly appellent une grande transformation, c'est-à-dire que il y a une sorte de désagrégation de la conscience de classe, il y a beaucoup de précaires, les aides-soignants, les ceux qui font du service à la personne, les caissiers, les caristes, les ouvriers de logistique, qu'en fait il y a une ubérisation de la société, et qu'en fait, si on voulait parler à ces gens-là, il faudrait voir comment ils vivent et inventer un nouveau discours de gauche. Et on a l'impression que la gauche ne l'a pas encore vraiment inventé, qu'elle propose des mesures davantage de hausse des salaires, etc. Mais des mesures qui ne séduisent pas la population parce qu'ils voient que ce sont souvent des vieilles ficelles. Et donc on a l'impression que tant que la gauche ne fera pas ce travail intellectuel de comprendre finalement les transformations de la société et cette ubérisation, eh bien la droite continuera d'imposer ses thèmes et de gagner la bataille des esprits. Donc voilà, c'est des questions auxquelles on essaie de répondre dans le nouveau numéro de Philosophie Magazine.
Voilà, celui du mois de mars, parce que celui du mois de février, à la une, il y a « C'est quoi un bon français ?» Vous y signez un article sur Éric Zemmour, intitulé « La méthode assimile ». À lire également, c'est très intéressant. On pourrait parler longuement avec vous de l'extrême droite, Michel Etchaninov, puisque vous avez écrit aussi « Dans la tête de Marine Le Pen ». On aura sans doute l'occasion de revenir sur tous ces sujets tout à l'heure dans le téléphone sonne, puisqu'on va s'interroger sur les conséquences de la crise ukrainienne sur la présidentielle en France. D'ailleurs, on va en parler tout de suite.
France Inter, le 18-20, une semaine en France.
Puisque c'est l'heure de la chronique Jeu de pouvoir de Vincent Martini de l'Hebdo Le 1. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Ce soir, vous allez donc nous parler du rôle de la politique internationale dans l'élection présidentielle et vous poser cette question. Peut-elle rebattre les cartes à un mois et demi du scrutin ?
Ce qu'on peut dire en tout l'état, Claire, c'est que beaucoup s'y emploient au-delà de l'émotion générée par la crise ukrainienne. Il y a ceux qui critiquent le président de la République pour l'échec de sa tentative de médiation avec la Russie. C'est le cas de Valérie Pécresse ou de Marine Le Pen qui dénoncent les mises en scène et l'initiative solitaire d'Emmanuel Macron dans la crise. En face, les soutiens du président en appellent eux à l'union sacrée derrière lui, alors que la paix en Europe est menacée. Ils ont d'ailleurs été rejoints par un allié inattendu, le maire de Béziers, Robert Ménard, proche de Marine Le Pen, qui ce matin sur CNews déclarait être, je le cite, « derrière le chef de l'État ». Mais surtout, cette crise est l'occasion de grands règlements de compte chez les concurrents d'Emmanuel Macron. À gauche, Anne Hidalgo et Yannick Jadot reprochent à Jean-Luc Mélenchon sa doctrine du non-alignement qui l'a conduit à afficher une complaisance de longue date envers Moscou. Et tous les candidats accablent Marine Le Pen et Éric Zemmour pour leurs accointances avec le chef du Kremlin. On se souvient en effet que ces deux-là ont été les infatigables défenseurs de Vladimir Poutine. Zemmour rêvait même à voix haute d'un Poutine français dans un entretien à l'Opinion en 2018 devenu viral sur les réseaux sociaux. Ils sont aujourd'hui contraints, ces candidats, de faire volte-face pour ne pas apparaître comme les complices d'une puissance hostile à la France, un comble pour les deux nationalistes.
Alors concrètement, ces remous peuvent-ils changer les équilibres et les dynamiques de la campagne ?
A priori, pas de manière directe. D'abord parce que le poids des questions internationales dans la vie politique française ne doit pas être surestimé. Même si la guerre inquiète nos concitoyens, il est probable que les questions intérieures reprendront bientôt le dessus, notamment dès que le chef de l'État sera entré en campagne, probablement quelque part en fin de semaine prochaine. Autre argument en ce sens, les sympathisants des candidats historiquement favorables à Poutine partagent souvent les inclinaisons de leur champion et même si c'est pas le cas, ils sont pas forcément susceptibles de modifier leur vote pour eux pour ce motif. Tout au plus, cela pourrait-il freiner leur dynamique de campagne, à commencer par Jean-Luc Mélenchon qui voit se liguer contre lui tous ses concurrents de gauche. D'ailleurs, conscient du danger de s'aliéner l'électorat social-démocrate à cause de ses sympathies pour la Russie, le candidat insoumis a été contraint de changer sa position sur cette question. Mais en même temps, rappelons-nous que son soutien à l'intervention russe durant la guerre en Syrie en 2017 ne l'avait pas empêché de frôler la qualification au second tour. Reste donc à savoir si la situation actuelle donnera un résultat différent.
Question, la crise ne donne-t-elle pas finalement un léger avantage au chef de l'État ?
C'est certain. En valorisant la position régalienne du président de la République dans cette crise gravissime et en monopolisant l'attention de l'opinion, l'actualité internationale neutralise les attaques sur sa politique intérieure et pourrait se révéler favorable au président sortant. Elle révèle en outre la légèreté de ses principaux adversaires sur un enjeu majeur de sécurité nationale. Mais c'est finalement le temps de la guerre qui décidera si celle-ci est appelée à devenir une question essentielle du débat électoral. Ce qui est certain en attendant, c'est qu'au-delà de l'élection elle-même, cette invasion d'un État européen par la Russie, une première depuis la Seconde Guerre mondiale, sera lourde de conséquences à long terme et structurera durablement la politique étrangère de la France. À ce titre, les candidats à la fonction présidentielle ont tout intérêt à s'y préparer dès à présent.
Merci beaucoup Vincent Martigny. On vous retrouve tout à l'heure pour le téléphone sonne. On posera justement donc la question des conséquences sur la présidentielle. On vous retrouve aussi sur l'application de l'hebdo Le 1, demain Le 1, qui consacre tout un numéro au chef du Kremlin avec cette question « Ce que veut Poutine ?». Et il y a notamment une très très longue interview de vous, Michel Elchaninov. Peut-être un mot de réaction à ce qu'a dit Vincent Martigny, mais pas trop long parce qu'on y reviendra tout à l'heure.
Oui, non, je crois qu'il y a vraiment une volte-face de la part des candidats qui soutenaient Poutine. Je me souviens au meeting de Nantes, il y a quelques semaines, Jean-Luc Mélenchon traitait Alexei Navalny, qui est quand même un opposant que le Kremlin a essayé d'empoisonner puis qu'il a mis en prison, d'antisémite. On se souvient des déclarations d'amour à Poutine d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. On se souvient aussi de la politique de dialogue de Macron avec Vladimir Poutine depuis 2 ans et demi. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on comprend que Vladimir Poutine a poussé sa logique jusqu'au bout et qu'on ne peut plus faire comme si Poutine était un interlocuteur avec lequel on peut dialoguer ou qu'on peut admirer.
Alors on continuera évidemment de parler de la Russie avec vous dans quelques minutes, le temps d'écouter un petit peu de musique venue du Brésil.
Olho pro cristalino corcovado e em silêncio grito e bababá. Tudo esquisito, tudo muito errado, mas a gente chega lá. Tem muito atrito, treta, tem moamba, mas tem sertanejo, treco, pagodão. Ana Vitória, doce, beijo, donça, maravilha, mendonça, afinação. Vai chegando que a gente sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba,
sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba não dá, sem samba,
sem samba mesmo apagou brejo, tem ferrugem, glória, groove, Maiara e Maraíza e ouro. Cabelinho, tem paca, chuta, blues, tem gente pra chuchu. Sendo David, Gabriel, Borel, Gabriel, Borel, Gabriel, Borel. Olho pro cristalino corcovado e em silêncio grita e bababá. Tudo esquisito, tudo muito errado, mas a gente chega lá. Tem muita treta, treta, tem moamba, mas tem sertanejo, trepa, pagodão. Ana Vitória, doce, beijo, donça, maravilha, mendonça, afinação. Vai chegando que a gente vai chegar. Vê se rola, se tudo vai rolar. Só que sem samba não dá. Sem samba não dá. Sem samba não dá. Sem samba não dá. Sem samba.
Caetano Veloso, c'est un choix musical de Djoubaka.
France Inter, le 18-20, Claire Servageant.
Avec Michel Etchaninov, que nous allons tenter de mieux connaître à présent. Michel Etchaninov, vous êtes né en 69, vous êtes né en France, dans une famille d'origine russe. Ce sont vos grands-parents qui sont venus en France, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ils sont partis après la révolution russe de 1917 et ils ont immigré en France dans les années 20. Et voilà, ils sont réinstallés en France et mes parents aussi sont nés en France, mais ils sont restés fidèles un peu à un milieu russe, à une langue, à une culture. Et donc voilà, quand j'étais enfant, j'ai un peu quand même baigné dans une double culture, à la fois russe et puis française, puisque comme tout le monde, j'allais à l'école.
Voilà. Et en tout cas, ils vous ont transmis cette culture puisque vous avez fait une thèse de philo sur Dostoïevski, hein, de l'art de cumuler les plaisirs. Vous êtes parti en 1990 en Russie comme coopérant à l'ambassade de France à Moscou. Vous avez vécu à plusieurs reprises en Russie et vous avez vu ce pays changer.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que, d'abord, quand je suis arrivé en 90, c'était encore le régime soviétique, mais on sentait que quelque chose d'imminent allait se passer. Et puis, c'était les magasins étaient vides, c'était une ambiance absolument morose. Ensuite, il y a eu la tentative de putsch d'août 91, qui a échoué. J'étais à Moscou à ce moment-là. J'essayais de soutenir ceux qui avait créé des barricades autour de ce qu'on appelait la Maison Blanche, le Parlement, pour sauver finalement la démocratie. Et puis ensuite, j'ai vu les années 90 arriver avec à la fois la démocratie, la liberté, et en même temps un chaos social incroyable, une pauvreté énorme. Et donc j'ai vu le pays changer, et puis d'année en année, j'ai vu aussi apparaître quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, une forme de nationalisme, une sorte de ressentiment vis-à-vis de l'Occident. Alors je l'ai vu de manière assez fragmentaire, hein, mais parfois dans les cafés, une remarque tout d'un coup un peu acerbe de quelqu'un, et j'ai vu monter un peu le poutinisme. Alors il n'est pas monté de la population, hein, parce que la population russe est cultivée, ouverte, vraiment curieuse du monde, etc. Mais j'ai vu un discours se mettre en place, et j'ai vu surtout Vladimir Poutine arriver au pouvoir et museler les médias, c'est-à-dire contrôler totalement son image, l'information, et commencer à mettre en place ce qu'il imaginait comme un long règne qui allait changer l'histoire du monde. Je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Poutine, il veut changer l'histoire du monde. Il considère son règne, entre guillemets, de 2000 à 2036, et il en a la possibilité, comme un règne historique, et il veut, il veut changer le monde.
Il veut changer le monde, mais plus que le monde, hein, parce que, alors là, on va dire un mot de votre tout dernier livre qui vient de sortir, toujours chez Actes Sud, Lénine a marché sur la Lune, la folle histoire des cosmistes et transhumanistes russes. Il y a encore question de Poutine dans ce livre, Poutine et la conquête spatiale. Vous racontez qu'il a lancé la construction d'une nouvelle base spatiale, puisque Baïkonour, c'est au Kazakhstan. Ce que vous dites, c'est qu'il y a un point commun entre Poutine et Elon Musk, qui rêve d'espace lui aussi. Ce point commun, c'est un homme, Tsiolkovski, qui était-il?
Oui, alors c'est vraiment une histoire incroyable que j'ai découverte, qui est très très peu connue en Occident, pas si bien connue que ça en Russie. C'est l'histoire d'hommes comme ce Tsiolkovski que cite à la fois Elon Musk et le président Poutine, qui a imaginé que l'homme allait pouvoir devenir immortel grâce à la science et la technique, et comme l'homme devenait immortel, il n'y aurait plus de place sur Terre, donc il fallait envahir l'espace et coloniser l'espace. Donc c'est quelqu'un qui, des décennies, dans les années 1920 à peu près, des décennies avant Elon Musk et les ambitions spatiales des Russes, voulait coloniser l'espace. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est parti d'une idée un peu folle, de l'idée qu'on allait pouvoir rendre l'homme immortel. Et donc j'ai découvert que dans la culture russe et soviétique des années 20, des années 30, il y avait déjà des choses qui sont réapparues aujourd'hui, comme le transhumanisme aux États-Unis. Vous savez, ces gens dans la Silicon Valley qui espèrent pouvoir nous rendre immortels, mais aussi des rêveries grandioses chez Vladimir Poutine de devenir une sorte d'incarné, quelque chose qui est plus qu'un pays. Vous savez, c'est ça qui est à la fois étrange et presque effrayant chez Vladimir Poutine, c'est qu'il pense que son pays est plus qu'un pays, c'est une idée, et que cette idée doit s'imposer au monde. Et donc c'est cette histoire très mal connue et vraiment incroyable que j'ai essayé de raconter dans ce livre.
Dans ce livre qui s'appelle donc Lénine a marché sur la Lune. J'en reviens une seconde au réseau d'influence de Vladimir Poutine ici en France. C'est dans un autre de vos ouvrages que vous l'avez raconté. Vous racontez la visite de Philippe de Villiers en 2014 à Yalta, en Crimée.
Oui.
Poutine voulait créer un spectacle historique comme le Puy du Fou. Il l'a fait, ça?
Non, je crois pas.
C'est toujours en projet?
Ça n'a pas été fait. C'était en projet. C'était des proches de Philippe de Villiers qui devaient s'en occuper. Mais je crois que le parc n'a pas encore vu le jour. Vous savez, la Crimée, ça a été présenté, même en France d'ailleurs, hein, par certains admirateur de Poutine, comme une victoire, la Russie récupère ses terres, et puis donc la Russie a en fait pris un morceau de l'Ukraine déjà en 2014, qui s'appelle la Crimée, et en fait on promettait monts et merveilles à ce territoire, et en fait c'est un territoire qui est pauvre, qui est corrompu, et qui est pas du tout, qui est pas du tout la chose que Vladimir Poutine présentait et voulait y construire. Donc c'est un projet grandiose, et où certains admirateurs du président russe devaient participer.
En tout cas, on comprend à la lecture de vos livres que Vladimir Poutine Poutine a des projets à foison. Vous rappelez notamment comment il a réclamé la restitution d'églises, de cathédrales construites avant la Révolution, la cathédrale de Nice. Comment il est parvenu à faire édifier une nouvelle cathédrale à Paris, tout près de la Tour Eiffel. Ça fait partie du projet global qui va même dans l'univers.
Ouais, c'est-à-dire que pour Vladimir Poutine, il y a un monde russe. Tous les Russes ou les personnes d'origine russe ou les personnes orthodoxes, c'est-à-dire qui partagent cette confession chrétienne orthodoxe, eh bien, sont destinés à devenir des agents finalement de l'idée russe que promeut Vladimir Poutine, l'idée impériale et impérialiste. Et donc, il a voulu effectivement récupérer la cathédrale de Nice l'annexer, construire une nouvelle cathédrale à Paris. Et donc, il y a une politique culturelle, il y a une politique religieuse qui accompagne effectivement cette guerre d'influence. Où, il faut bien le dire, l'État russe, depuis toujours, est assez performant, c'est-à-dire qu'ils savent séduire, ils savent convaincre, et tous les moyens sont bons, la religion, culture, la politique.
Merci beaucoup Michel Tchaïnov, je suis obligée de vous couper, mais je vous dis à tout à l'heure. Lénine a marché sur la Lune et dans la tête de Vladimir Poutine, pour citer deux de vos derniers ouvrages. Merci beaucoup.